Le hip-hop plus que jamais au sommet. L'an dernier, les 10 albums les plus écoutés sur la plateforme Deezer étaient tous des albums de rap français. 30 ans après l'émergence des pionniers du genre dans l'Hexagone, le rap domine l'industrie musicale et brasse des centaines de millions d'euros. Alors comment les rappeurs ont-ils su profiter de l'essor du streaming? Et comment la figure de l'artiste entrepreneur a-t-elle transformé l'économie de la musique? Voilà quelques-unes des questions qui vont nous occuper jusqu'à 15h. Bienvenue à tous dans Entendez-vous l'écho. Nous allons parler du triomphe du rap en compagnie de Sofian Fanen, journaliste, cofondateur du média en ligne lesjours.fr et auteur de cet ouvrage, Boulevard du stream, du MP3 à 10h, La musique libérée, paru aux éditions du Castor Astral. Également avec nous, Paco Garcia, doctorant en sciences de l'information et de la communication au LAPSIC de Sorbonne Paris Nord. Une émission composée avec l'aide de Thibaut Moméja, Aliette Ovine, Mathilde Tonfourcade, Diane Devancet et Anna Kubiak. Bonjour Paco Garcia et Sofian Fanen.
Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors d'abord, il faut dire que si le rap est né à New York aux États-Unis dans les années 70, on trouve déjà ce terme dans un sens proche de son sens actuel dès les années 40, Sofian Fanen.
Oui, en fait, le rap émerge dans des cultures noires américaines. C'est vraiment une continuité des cultures noires, que ce soit le blues, puis ensuite la soul, le funk, même le disco, dans un certain sens, dans les années 70. Et c'est, en fait, même la rencontre de cultures noires qui sont aussi caribéennes, parce que c'est vraiment la rencontre du funk, de la soul et de techniques des sound systems jamaïcains, notamment des enfants d'immigrés qui arrivent et qui reprennent la technique de la block party, ce qu'on appelle la block party, c'est-à-dire on sort les platines, on sort les enceintes dans la rue, il fait beau et on fait des barbecues et on passe des disques. Et à partir de là, ils vont commencer à composer à partir de deux disques, des fois trois, souvent deux, identiques si possible, pour ne conserver que ce qu'on appelle le breakbeat, donc la rythmique, le cœur rythmique, pour entraîner les danseurs pendant très 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 longtemps, le plus longtemps possible, parce qu'en fin de compte, avoir un morceau fabuleux qui dure 3 ou 4 minutes, c'est un peu frustrant. Si on peut le faire durer 20 minutes, c'est beaucoup mieux.
Et voilà ce que donnent ces différentes influences dans les années 70 aux États-Unis. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike and I'd like to say hello. Le titre Rapper's Delight du groupe Sugar Hill Gang est considéré comme le premier titre de rap, Sofian Fanen.
C'est le premier succès commercial en fait du rap. C'est ça qui est assez génial d'ailleurs avec Sugar Hill Gang. C'est une jolie arnaque en fin de compte, parce que c'est un morceau qui est monté par une entrepreneuse noire américaine qui s'appelle Sylvia Robertson, qui voit bien que dans le Bronx à New York, il se passe quelque chose dans la rue justement, et il y a une musique qui est en train de naître, et elle va aller chercher des musiciens qui ne se connaissent pas d'ailleurs pour monter ce Sugar Hill Gang et avoir un succès créé de toutes pièces. D'ailleurs, dans les paroles de ce morceau, il y a des séquences entières qui sont volées à d'autres rappeurs. Il va y avoir toute une histoire, etc. Mais Sylvia Robertson est la première entrepreneuse vraiment du rap américain, et elle va avoir un succès énorme à partir de là.
Émergence à New York, mais très vite dans le sillage des États-Unis, des groupes de rap émergent en France. Paco Garcia, un rap qui va s'opposer à l'establishment composé des majors de l'époque.
En tout cas, dans un premier temps. Ce qui est intéressant, c'est que, comme au même titre qu'aux États-Unis, entre guillemets, le franchissement de l'Atlantique, si je puis dire, donc le fait que le rap passe des États-Unis à Paris, à la France, mais principalement à Paris dans un premier temps, mais aussi à Marseille, dans les grandes métropoles en France. En fait, il est le fait d'une immigration afro-caribéenne, en fait, qui a des attaches dans les Caraïbes, mais aussi aux États-Unis, en fait. Mais aussi via une alliance de fait avec ce qu'on peut appeler les branchés, c'est-à-dire les influenceurs de l'époque. Par exemple, Paco Rabanne est un grand acteur du franchissement de l'Atlantique du rap, mais aussi toutes les personnes du milieu de la mode et mais aussi de la télévision en fait, qui ont une américanophilie, on peut dire, et qui s'intéressent à ce qui se passe aux États-Unis. Et donc, il y a une alliance de fait qui se fait entre des classes populaires, ou en tout cas des jeunes hommes issus de l'immigration, Et voilà, ces personnes qui qu'on peut considérer comme étant les influenceurs de la fin des années 80.
Et ces premiers artistes veulent passer par des circuits indépendants, à l'image de ce qui se fait dans le punk, Paco Garcia.
Oui, en tout cas, c'est ce que déclarent des groupes comme Assassins, mais aussi des groupes comme NTM, qui sont dans un premier temps des groupes de taggers, de danseurs, qui font du rap aussi en parallèle, et qui en fait traîne, on peut dire, au terrain vague de la Chapelle, qui est un haut lieu de l'émergence des cultures hip-hop et donc du rap en France et à Paris plus précisément. Et dans un premier temps, elle semble vouloir s'auto-organiser, ou en tout cas quand les rares interviews qu'on voit d'eux, on voit que voilà, elles font leur truc dans leur coin, et que le succès commercial n'est pas une volonté première dans un premier temps. Mais en fait, contrairement à ce qu'elles annoncent ou à ce qu'elles croient, ce sont les majors, les grandes maisons de disques qui permettent l'émergence du genre rap en France comme genre musical propre en fait. C'est-à-dire que avant celle-ci, le rap était fait uniquement en live dans ce terrain vague de la Chapelle, mais aussi dans la salle de Paco Rabanne qui est pas loin, dans le 10e arrondissement. Et donc les premières performances enregistrées de rap sont faites grâce sous l'égide de la production des majors. Le premier disque de NTM, le premier disque de IAM, etc. MC Solar aussi en 90 en fait, lors de l'année 90.
Et alors quel est le regard qui est posé sur ces artistes dans les années 90? La presse généraliste distingue les rappeurs cool des rappeurs hardcore, Sofian Fanen?
Oui, alors ça d'ailleurs c'est une séparation qui demeure toujours, le rappeur street et le rappeur cool, enfin en tout cas il a pas vraiment de nom en fait, le rappeur cool. On a le rappeur street qui est plus dur, hardcore ou street, voilà, qui est voilà plus dur, plus connecté à la vie difficile, parce que le rap émerge de banlieue, émerge de quartiers pauvres, émerge de vie qui revendique aussi cette dureté, même si tous n'ont pas connu, on parlait de MC Solar, c'est pas son histoire, voilà, il y a plein de gens qui n'ont pas cette histoire-là, qui font du rap aussi dans ces premières années, mais globalement, voilà, ça émerge de quartier dur, donc il y a vraiment ce côté-là, et le côté qui va être plus sur la musique et la musicalité plutôt que les textes qui parlent d'une vie de la rue. MC Solar est vraiment l'exemple archétypal de ce moment-là, il travaille avec des musiciens qui seront connectés plus tard avec la French Touch, avec les Daft Punk, etc., il est dans une recherche de samples soul, etc., etc. Et il va avoir ce côté extrêmement littéraire qui va accrocher tout de suite des médias qui voient en lui vraiment le bon rappeur, là où les NTM ou Assassin, etc., sont des rappeurs plus durs.
Effectivement, l'un des groupes qui revendique son authenticité face aux rappeurs mainstream comme MC Solar, c'est NTM.
Nous, on est un groupe de copains, voilà. Un club de bridge, pas une association. On est, on a un but, mort au bâtard, voilà, et donc c'est ce qui nous réunit tous, quoi, tu vois. En gros, c'est ça, voilà.
Faire un tour dans les banlieues, regarde ta jeunesse dans les yeux. Yeah. Toi qui commande en haut lieu, bon, on appelle les sérieux. L'on ne prend pas ça comme un jeu, car les jeunes changent.
Voilà ce qui dérange.
Nous, on vient, on fait de la musique, on a des textes, on ne parle pas des textes, on ne parle pas de la musique. On vient alors la banlieue, nanana.
On s'amuse productivement, quoi, en étant productif.
Je pense pas que ça se disait productivement.
Non, mais
c'est pas grave.
Faudrait
au montage. On s'amuse tout en étant productif.
C'est clair.
Voilà un reportage de septembre 1990 avec Joey Starr et Kool Chain. Il y a donc ce clivage qui se crée dans le monde du rap français entre artistes indépendants et artistes portés par les majors du disque. Et si le rap français marche aussi bien dans un premier temps, Paco Garcia, c'est en grande partie grâce à la radio et surtout à Skyrock qui va jouer un rôle déterminant en se tournant vers le rap.
Exact, en tout cas dans un second temps, c'est-à-dire à partir de 97, c'est lié à la loi des quotas sur la musique francophone, ce qui est en fait une exception concrète de l'exception culturelle française. Il faut que voilà, l'État fait en sorte que la culture francophone française soit conservée et se développe face aux cultures populaires américaines qui, tout au long de la seconde partie du XXe siècle au moins, ont dominé, ont une puissance de frappe autrement plus importante que celle de l'Hexagone. Donc, en effet, c'est à la faveur d'une loi sur la musique francophone que une radio qui s'appelle Skyrock et il y a rock dedans, qui n'était donc pas prédestinée à diffuser du rap, se dirige, se consacre, investit en fait dans un nouveau genre musical. Elle voit le rap, elle voit de jeunes artistes qui qui chante en français, et dans ce cas-là, elle investit dessus, et progressivement, elle va même jusqu'à changer son slogan, pour elle devenir premier sur le rap, et créer une émission qui s'appelle Planète Rap, et qui a été plus qu'importante, et qui l'est toujours d'ailleurs, pour le genre rap en France.
La radio qui durcit le clivage qu'on a évoqué autour de l'authenticité, Sofian Fanen.
Oui, oui, en fait, Skyrock, ce qui est intéressant, c'est que Skyrock fait le choix du rap par défaut. En fait, c'est la plus petite des radios rock héritées des radios libres, et en fait, elle fait, après la loi sur les quotas de 94, en fait, elle va occuper ce terrain-là parce qu'elle doit passer ses musiques francophones. Et en fait, personne ne passe de rap francophone, ou en tout cas très peu. C'est une musique qui, par rapport à son impact culturel, a une faible place sur les radios et dans les médias globalement. Plus ils sont visibles, moins il y a de rap. Et Skyrock décide de vraiment basculer complètement son format et de ne faire que ça. Et donc, à partir de là, elle va devenir vraiment non seulement le diffuseur, mais aussi un lieu physiquement de rencontre. Skyrock est situé dans le quartier des Halles. C'est pas pour rien. Le quartier des Halles, c'est là où tous les RER de la banlieue se retrouvent. Et Skyrock devient aussi un lieu de vie, de rencontre, de créativité. Il y a des groupes qui vont se rencontrer là-bas. Il y a énormément de choses qui vont se passer là-bas. Et Skyrock va vraiment devenir la caisse de résonance autant que la voix de toute une époque et jusqu'à aujourd'hui, parce que le succès assez important de Skyrock aujourd'hui est vraiment le résultat de ces 25 années de travail sur le terrain.
Et puis, comme vous le disiez, Paco Garcia, peu à peu, et en particulier à la fin des années 90, on assiste à l'entrée de nombreux artistes autrefois indépendants parmi les majors. C'est un moment où le rap va vivre un véritable âge d'or grâce à la mise sur le marché du CD.
En effet, c'est ce qu'on appelle communément l'âge d'or, parce que une seconde génération, une deuxième génération d'artistes émerge en fait. On a une première génération avec NTM, IAM, etc., qui sont en effet portés par les majors, qui émergent à la faveur de polémiques, on va dire, sur les banlieues, sur le tag autour de l'année 90. Mais ensuite, il y a une espèce de creux de la vague en fait entre 93 et 96. Donc il n'y a pas encore la loi sur les quotas qui est appliquée. Skyrock n'investit pas encore sur le rap. Les majors se détournent du rap sur cette période de 3-4 ans. Parce que la banlieue, le tag, etc. ne fait plus la une de l'actualité. Et en fait, grâce à l'investissement de Skyrock lié à cette loi sur les quotas, une seconde génération d'artistes, qui est souvent parrainée par cette première génération qui dispose de contrats en major, ou qui en tout cas dispose de contacts, a monté des labels plus ou moins indépendants, c'est-à-dire des contrats ça peut être des contrats de licence, des contrats de coédition, etc., etc. En coopération avec les majors, une seconde génération et Skyrock finalement, mais ça c'est classique en fait, la coopération entre les grandes maisons de disques et les radios, donc voilà, une nouvelle coopération s'établit autour du rap, et voilà, c'est ce qui a permis l'émergence d'un nouveau genre, d'un véritable genre rap français, et communément appelé comme étant l'âge d'or.
Et c'est un marché extrêmement lucratif. Les ventes de CD en France rapportent 1,3 milliard d'euros en 2002, c'est quelque chose auquel le vinyle n'aurait jamais pu prétendre, Sofian Fanen.
Oui, j'ai écrit dans mon livre, je parlais d'une bulle du CD. En fait, le CD a été des années folles, tout simplement, du disque, parce que déjà, c'est un disque qui coûte beaucoup moins cher à fabriquer, à produire, à transporter. Vous mettez beaucoup plus de CD que de vinyle dans un camion, vous mettez beaucoup, beaucoup plus de CD que de vinyle dans le même magasin, également, donc vous pouvez stocker davantage de disques. Il y a eu également des ententes aux États-Unis, il y a eu un procès contre ça, parce qu'il y a eu une entente entre les majors pour en profiter, pour augmenter ensemble le prix du CD. C'était vendu extrêmement cher.
$14, le prix était fixé à $14.
Et quand le CD a traversé l'Atlantique, on a repris ce prix-là. Donc il n'y a pas eu de procès en Europe, mais on a subi cette même hausse. Voilà. En plus, le CD avait ce vernis de modernité. Dans les années 80, quand le CD est arrivé, on était à l'époque, c'était l'époque de Star Wars, de Retour vers le futur, c'était le rayon laser, etc. On regardait vers l'an 2000 les voitures volantes, etc. Et le CD a profité jusque dans les années 90 de ce vernis de modernité jusqu'à l'extrême, c'est-à-dire que c'est vraiment devenu, alors en France avec le top 50 sur Canal+, le début de la vente des disques dans les grandes surfaces, c'était pas possible auparavant, on a vu la bulle du CD grossir, jusqu'à entraîner des pratiques qui lui ont nui, qui ont nui au format, c'est-à-dire que on sortait un peu tout et n'importe quoi, la culture de la compilation. À la fin de l'année, vous aviez des compilations complètement dingues, parce que dans les labels, les gens voulaient leur bonus, donc il fallait un gros disque en fin d'année, donc on compilait un peu tout et n'importe quoi, c'était vraiment pas très bien fait. On donnait des CD, vous faisiez le plein, vous aviez un CD, vous alliez dans un fast-food, vous aviez un CD gratuit, etc. Donc à la fin des années 90, le CD n'a jamais rapporté autant d'argent, mais il est en même temps prêt à exploser face au MP3 et à la musique en ligne.
Et puis ce qui a aussi permis le succès de cette industrie du CD, c'est la publicité à la télévision. C'est aussi un élément qui est présent dans votre livre, Sophie Anfanen, et qui a joué dans cette rentabilité.
Oui, parce qu'auparavant, c'était interdit. Donc là, tout d'un coup, ils peuvent faire de la publicité à la télévision, ce qui va avoir un impact. On va avoir aussi la naissance de chaînes qui vont diffuser des clips. Alors MTV, puis plus tard M6, etc., qui va être une grande chaîne diffuseuse de clips à la base plus tard. Et ça va vraiment entraîner faire gonfler le gâteau. Et le top 50, surtout le top 50, ça a été un vecteur époustouflant, parce que tout le monde se retrouvait devant la télévision pour voir vraiment les classements de disques. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait naître cette culture du classement qu'on retrouve très fortement sur les plateformes de streaming, et notamment dans le rap aujourd'hui. Ça naît avec le top 50, et qui va lui aussi se rajouter pour faire vendre encore plus de disques.
France Culture, Entendez-vous l'écho, Tiphaine de Rocchini.
Nous parlons du triomphe du rap en compagnie de Sophie Anfanen, qui est journaliste cofondateur du Média en ligne Les Jours, et Paco Garcia, doctorant en sciences de l'information et de la communication à Sorbonne Paris Nord. Si l'industrie musicale entre ainsi dans les années 90 dans une course à la rentabilité, c'est aussi parce que c'est un moment où cette industrie se financiarise, entre en bourse. Elle doit aussi répondre à des actionnaires, Sophie Anfanen.
Oui, on va avoir des entrées en bourse, d'EMI, des fusions entre Warner et une grosse major du cinéma dont j'oublie le nom là, mais voilà, on va avoir comme ça une financiarisation, effectivement. Alors ça, c'est plutôt la deuxième moitié des années 90, vraiment financiarisation, parce que tout simplement il y a plus d'argent que jamais dans le monde de la musique, beaucoup plus qu'à l'époque du vinyle, qui paraît à l'époque comme un monde de débutants. On était vraiment dans quelque chose de gens qui s'occupaient encore de musique, vous voyez cette folie. Dans les années 90, c'est plus tellement l'ambiance, on s'occupe de gros sous, et donc les gros sous arrivent. Et d'ailleurs, c'est ce qui se repasse en ce moment dans le monde de la musique. C'est un autre sujet, mais on a une refinanciarisation du monde de la musique autour du streaming, etc. Mais dans les années 90, on rentre dans un objectif de rentabilité au trimestre, au semestre, à l'année, et donc on va chercher à contenter l'investisseur au maximum.
Et en même temps, il y a peut-être une défiance croissante des consommateurs qui voient que le prix des CD est peut-être trop élevé par rapport à la réalité des coûts de fabrication.
Une défiance, je sais pas, mais une opportunité en tout cas qui se crée au début des années 2000, c'est Internet, et c'est la possibilité finalement d'échanger des fichiers en ligne, et cela gratuitement. Et face au prix en effet du CD, le consommateur lambda, l'auditeur en fait, va avoir et va faire en sorte de se procurer gratuitement de la musique au lieu de la surpayer, et de se rendre compte qu'en fait on lui vend des choses qu'il a déjà, ce qu'il avait déjà sous forme de vinyle, etc. et de façon tout à fait rationnelle, on se procure gratuitement de la musique sur Internet. Donc à partir de 2002, ce qui devait arriver arriva, en tout cas pour la France en 2002, les ventes de disques commencent à chuter. 2002 est la dernière année de croissance pour l'industrie musicale. On arrive à 1,3 milliard d'euros.
C'est au moment où se développe en particulier le haut débit ADSL en France.
Exactement, ça peut pas être une coïncidence de ce point de vue-là.
Sur cette question, Sophie Anfanen, effectivement, c'est en 1996 que le premier MP3 est mis en ligne et que les téléchargements illégaux commencent à exploser. On a cru que le marché français allait résister, mais en réalité, comme l'explique Paco Garcia, il y a ce basculement à partir de 2002.
Oui, enfin, les gens qui ne voulaient pas voir ont cru que le marché français allait résister, parce que le marché allemand, le marché anglais, le marché américain étaient déjà en baisse. Mais en France, on pensait que le marché résistait, parce que personne s'était dit qu'en fait, on n'avait pas encore la DSL, c'est qu'il y a quelque chose de très français, il y avait encore le monopole de France Télécom, en fait, à ce moment-là, qui défendait son Minitel, qui lui rapportait beaucoup d'argent et qui était le futur, à l'époque du passé, on va dire. Et il a fallu attendre que le gouvernement d'époque brise le monopole de France Télécom et fasse entrer des nouveaux opérateurs, etc., pour que la DSL se développe, pour que, mais vraiment concomitamment avec l'arrivée de la DSL dans les foyers, se passe la même chose qu'en France, alors que, enfin que dans les autres pays en France, alors que pendant des années, tout le monde disait non, mais nous ici, on fait de la meilleure musique, on a la bande originale de Notre-Dame de Paris qui était un succès de l'époque, on a Céline Dion, on a des gens comme ça, on a Florent Pagny. Pourquoi les gens iraient télécharger alors qu'ils aiment tellement nos artistes, ils sont tellement merveilleux? Évidemment, comme l'expliquait Paco, c'est même pas une volonté de nuire aux artistes, c'est une réflexion logique que les internautes ont eue. La musique était là en ligne, il y en avait beaucoup plus d'ailleurs, on n'avait même plus besoin d'aller se déplacer à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, elle était gratuite. Le gratuit, c'est toujours mieux que le payant.
Et alors, dans ce contexte de crise du disque, les majors vont révoquer un certain nombre de contrats et Skyrock se tourne vers des artistes plus mainstream. Un revirement que dénonce le rappeur Kery James dans sa chanson Racaille.
Je suis en Inde, tu me verras plus jamais mettre les pieds à Skyrock. Ils n'aiment pas ce que je suis, ce que je défends, ce que je porte. C'est réciproque. Ils ont travesti le RAP. Je fais partie des rescapés. Ils ont encensé la médiocrité. Ils ont fait du hip-hop de la variété. Ils ont joué les clashs pour nous diviser. Tant que ça fait de l'audience, on peut s'allumer. Quand un rappeur se fera buter, ils organiseront un concert au nom de la paix. Yeah, je fais de la musique contestataire. Vous vendez des espaces publicitaires. Je me suis sacrifié pour mes petits frères. Vous jouez des trucs qui les envoient au cimetière. Fric et violence dans vos playlists. Vous abrutissez les miens, ça plaît aux élites. Vous êtes servi de moi, je me suis servi de vous. Pour que mon message passe au plus grand nombre, maintenant je peux le faire sans vous. J'ai un public qui me soutient. Je fais des choses, le peuple s'en souvient. La rue vous vomit, je le rends public. Rien n'a changé depuis l'être à la République.
Racaille, le titre de Kery James, sorti en 2016. À partir du début des années 2000, Skyrock cesse en effet d'être une rampe de lancement pour les jeunes rappeurs. Paco Garcia.
Les ventes de disques commencent à chuter à partir de 2002. Les majors du disque continuent en fait à insister, à essayer de faire passer ces choses, à essayer d'investir un maximum, à faire de la politique de l'offre en fait dans les premières années. Mais petit à petit, elles se rendent compte que ça ne passe plus. Donc, elles révoquent un certain nombre de contrats d'artistes et c'est le genre rap qui est le premier affecté. Notamment parce que c'est un genre musical qui est récent, donc constitué d'acteurs fragiles, mais aussi parce que c'est un genre musical qui est historiquement associé en fait à une altérité postcoloniale, aux classes populaires, tant au niveau des artistes, mais aussi au niveau des auditeurs. Donc les majors du disque considèrent, en partie à tort et en partie à raison, qu'il est de plus en plus difficile de vendre du rap aux auditeurs, à des auditeurs qui sont réputés comme ayant un pouvoir d'achat moindre, qui ont des consommations culturelles moindres aussi, donc vont moins acheter de CD. Ça c'est une première chose. Dans un deuxième temps, étant donné qu'elle révoque ses contrats d'artistes, les relations privilégiées entre radio et major du disque ne fonctionnent plus pour Skyrock, ou en tout cas pour les rappeurs. C'est-à-dire que, n'étant plus signés en major, ils n'ont plus la ligne directe, si je puis dire, du directeur des programmes pour être programmés. Et dans le même temps, encore une fois, de façon rationnelle, le directeur des programmes, ou du moins la station Skyrock, se tourne vers un autre genre musical, ou en tout cas ouvre sa playlist vers des musiques, comme vous l'avez dit, un peu plus mainstream, ou en tout cas vers le R&B, ou les musiques associées. Donc les rappeurs deviennent indépendants de fait, donc n'ont plus accès au réseau conventionnel d'exploitation de la musique, que sont les contrats d'artistes afin de distribuer leur musique nationalement, ou la radio Skyrock, qui est la principale radio rap en France.
Ils font tout simplement les frais, Sophie Anfanen, de cette aversion au risque croissante des majors.
Oui, il faut imaginer qu'à partir de 2002, et ça va arriver très très vite, c'est la chute libre, en fait, dans les maisons de disques, et c'est presque un siècle de modèle économique qui s'effondre et qui fonctionne plus, et personne ne sait vraiment comment refaire fonctionner ça. C'est très compliqué, il faut créer une offre légale, les majors essayent de le faire elles-mêmes et elles s'aperçoivent au bout d'un moment que c'est un autre métier, tout simplement. Elles ont des problèmes avec les contrats, il faut rouvrir tous les contrats pour avoir une exploitation numérique, c'est extrêmement compliqué. Il y a des choses très techniques à régler, le consentement à payer, les cartes bleues en ligne, enfin, ouais, c'est 10 ans de marasme extrêmement compliqué. Et donc les maisons de disques, à commencer par les majors, majors vont se replier sur leur base et vont se replier sur ce qu'elles pensent pouvoir encore faire et ce qu'elles pensent pouvoir encore vendre et vraiment le confortable. Et donc c'est le fameux retour du rock. Ça c'est vraiment marquant dans le début des années 2000, c'est que pendant qu'on a toute une génération de rappeurs et qu'on a un impact culturel du rap qui ne faiblit pas sur le terrain, dans la vie de tous les jours, dans les médias, dans les grandes maisons de disques, mais dans les médias parce qu'elles sont l'écho de ce travail-là, on a le retour du rock, les Strokes, les Bébés Brunes, etc. Et moi je l'ai vécu en tant que journaliste dans les années 2000, on a des rédactions qui sont habitées de pop rock, etc. Et pendant que le rap devient une sorte de sous-genre oublié, négligé presque, alors qu'il est toujours aussi fort. En fait, c'est la différence avec les années 90 où il était naissant, encore il prenait son élan. Dans les années 2000, l'élan est pris, mais la courroie économique n'existe plus.
Il n'y a plus d'écho, Paco Garcia.
Non, exactement. C'est une des grandes malédictions du rap, en tout cas jusqu'à nos jours, et peut-être que c'est en train de changer, c'est que les acteurs des industries culturelles n'ont cessé de le considérer comme un effet de mode dès le début. Peut-être que c'était le cas au début dans les années 90 ou à la fin des années 80, mais ce n'était pas le cas dans les années 2000. Donc, voilà, le rap a perduré sous d'autres formes, sous des formes plus indépendantes, plus informelles, non conventionnelles, entre guillemets. Mais voilà, c'est une des malédictions du rap, c'est que il existait encore, il n'avait juste plus un modèle économique derrière lui qui pouvait le supporter.
Le rap décline au début des années 2000 pour mieux renaître quelques années plus tard. On en parle dans un instant.
Je voudrais sortir la daronne de son HLM pour raf, plus voir la petite sœur charbonner chez H&M. Courage, mettre à l'abri mon entourage, juste le temps de l'orage. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur, en tout cas ça soulage. Un mariage digne de ce nom, digne de chez nous. Rouler dans une de ses gaufres, pas une de chevaux. Les mêmes questions, réponses, toujours pas de taf. Cousin, c'est pas comme si j'ai pas de faf. Les faux tours au-dessus de ma tête guette la moindre blessure. Un peu de zèbre pour faire le tour du monde sans aucun plaisir. Faut l'inspite MacGyver quand y'a pas de lové. Dis-toi qu'il y en a qui attendent la pluie dans le seul but de se laver. Pour la baraque complète, j'ai même pas posé une brique. J'y mettrai pas les pieds, ne serait-ce qu'une nuit. Les mêmes questions, réponses, toujours pas de femme. T'inquiète maman, c'est qu'une question de taille.
Je voulais faire de grandes études, j'ai les aptitudes, on m'a dit pour sa folle étude.
Mais j'ai pas les noms.
Les huissiers ont menacé de m'expulser, je les paierais si j'avais assez.
Mais j'ai pas les noms.
Je voulais faire de mon père un roi, de ma mère une reine, leur construire une baraque au bled.
Mais j'ai pas les noms.
Je veux l'épouser, tout plaquer me poser, donner la dot que son père a imposé.
Mais j'ai pas les noms.
Section d'assaut en écho des années 2010 sur France Culture, le règne du rap, c'est notre sujet. Aujourd'hui, dans Entendez-vous l'écho, nous sommes toujours en compagnie du chercheur Paco Garcia et du journaliste Sofian Fanen dans une émission réalisée par Somaya Dabesh et mise en onde par Félix Delacour.
Tous ces discours m'ont emmené au bac pro chôme du et sans taf c'est la hesse et tout le monde sait que le manque de somme du j'ai grandi près des quartiers sales et de la place Vendôme et j'ai compris que mon pote richesse en fait n'était qu'un fantôme. Alors ça a fait de moi dès le squatteur de tes gouttes et maintenant je veux squatter les banques car sans une personne va t'écouter. Je veux plus que ma mère frotte le sol, je veux qu'on frotte son dos, je veux mettre au shot les factures à rire mais y'a qu'un seau d'eau. Je veux nourrir toute la misère, car les petits agonistants. Mais mon frigo se mange des hagras comme les refs d'Afghanistan. Le Sénégal m'attend, mais merde, y'a pas les lots. Donne-moi du bif et je fais danser l'Afrique, même sur Yakalelo. Ah, je voulais du ralice pour refaire les routes du double. Mes phoques, à la base, on utilisait tous nos deux pieds.
Je voulais faire de grandes études, j'ai les aptitudes, on m'a dit pour sa folle étude.
Mais j'ai pas les lots.
Les huissiers ont menacé de m'expulser, je les paierais si j'avais.
On va arriver dans un instant aux années 2010, mais d'abord, restons encore un petit peu en ce tout début du 21e siècle qui correspond à une traversée du désert pour le rap. Et c'est dans ce contexte que va se mettre en place une économie parallèle. C'est le début de l'aventure Musicast.
Sur Musicast, on a choisi de présenter les artistes et les groupes avec un texte, photo, l'actualité, les dates de concert. Les gens ont la possibilité d'écouter des extraits. Mais s'ils veulent l'album, il faut qu'ils l'achètent, comme un album habituel. C'est un site sans téléchargement. L'idée sur Musicast, en fait, c'est de valoriser l'artiste autoproduit et le disque autoproduit, de considérer que s'il y a un disque qui a été réalisé, qu'il est présenté, qu'il est de bonne qualité, on peut l'acheter comme une production habituelle. Et on essaye de travailler vers ça.
Voilà le fondateur du distributeur Musica, Julien Curtado, dans une interview sur France Musique en 2000. Musicast, simple site internet à ses débuts, a été déterminant pour toute une génération de rappeurs indépendants, Sofian Fanen.
Oui, complètement. C'est vraiment une maison historique, fondatrice. Alors ce qui est intéressant, c'est que d'ailleurs, Julien Curtado vient pas du rap, il vient des instruments de musique. En fait, il ouvre Musicast parce qu'il s'intéresse au numérique, il s'intéresse à la musique en ligne, etc. Et en fait, il tombe sur un filon, En fait, il y a plein de gens qui viennent le voir, qui disent « Mais tu peux distribuer notre disque ? Moi, j'ai ma mixtape, j'ai mon album, j'ai des morceaux, j'ai envie. » En fait, il y a toute une génération qui a envie, qui est morte de faim, comme on dit vraiment, littéralement, et qui tombe sur Julien Curtado et qui trouve une oreille ouverte et quelqu'un qui leur ouvre des portes sans plus de complications que ça. C'est-à-dire, c'est exactement ce qu'il dit là, si le disque est fait, c'est qu'on peut le distribuer. C'est pas la peine de passer par les fourches codines des DA, de la radio, de Skyrock, etc. On distribue et en fait, Julien Curtado va rassembler toute une génération de rappeurs qui sont encore ceux qui font l'actualité aujourd'hui, même après, assez rapidement, des gens comme Jul et PNL vont arriver et faire plus tard les beaux jours de Musicast qui va être acheté par Believe, qui est un gros acteur de la musique en ligne en France et même dans le monde aujourd'hui. Et donc Musicast est l'acteur qui est là au bon moment et surtout qui sait entendre et qui sait accueillir tout simplement tous ces musiciens que beaucoup de maisons de disques ne sont plus capables ou ne veulent plus accueillir.
Il y a par exemple le titre présumé coupable, l'album présumé coupable de Mister You, qui est un énorme succès en 2010 sur ce que permet Musicast aux rappeurs indépendants, Paco Garcia.
Oui, en effet, d'autant que la particularité de Mister You à l'époque, c'est d'être recherché par la police, d'être en cavale. Donc, de fait, il y a une impossibilité à signer un contrat en maison de disques, encore moins un contrat d'artiste. Voilà, Mister You autoproduit son album alors qu'il est en cavale ou juste avant de se faire rechercher par la police.
Avec une mise en scène de sa cavale.
Voilà, et avec une mise en scène de sa cavale. C'est pour ça que au-delà de... En plus de Julien Curtado qui est un personnage on ne peut plus important pour l'émergence ou la réémergence du rap à partir des années... à la fin des années 2000, début des années 2010, on a les réseaux sociaux numériques en fait. Et Mister You marche sur deux jambes. Il marche sur une distribution indépendante permise par Julien Curtado, mais il marche aussi sur YouTube et sur les réseaux sociaux numériques tels que Facebook ou MySpace dans un premier temps, ou la plateforme de blog Skyblog d'ailleurs, qui appartient à la radio Skyrock. Donc en effet, il fait une mise en scène de sa cavale, une espèce de making-of de la production de son album, et en parallèle, celui-ci est distribué nationalement grâce à Julien Curtado et à Musicast, ce qui n'était pas possible, ce qui n'était pas proposé par les majors du disque à l'époque, qui ne voulaient pas établir de contrat de distribution, ou en tout cas très peu, car elle prenait très peu d'argent pour ça, donc elle préférait les contrats d'artistes.
Et en effet, le web va peu à peu permettre à des rappeurs de se faire connaître du grand public sans passer par les majors ou les médias généralistes. C'est MySpace au début des années 2000, et plus tard, évidemment, YouTube jusqu'à TikTok aujourd'hui, Sofian Fanen.
Oui, c'est l'un des éléments de la prise de pouvoir du rap. Hein. Ces éléments, c'est la capacité à produire de la musique en autonomie. Ça, c'est vraiment les ordinateurs qui vont les apporter, la nouvelle technologie. La capacité à se distribuer, ça commence avec Musicast. Il va y avoir d'autres choses après, on va en parler. Et les réseaux sociaux, c'est l'autre élément. C'est-à-dire que jusque dans les années 90, c'est l'arrivée de la musique en ligne, l'arrivée des réseaux sociaux, MySpace, Facebook, etc. Pour parler aux gens, il fallait alors soit aller leur parler dans la rue directement, c'est un peu compliqué pour se construire une communauté, il faut faire beaucoup de kilomètres, soit avoir un accès à la presse, et ça c'était le rôle et la chasse gardée des maisons de disques, et notamment des plus grosses. Avoir accès aux radios, on en a parlé avec Skyrock. Et à partir du moment où sur MySpace, vous pouvez parler directement aux gens qui sont intéressés par votre musique, puis sur Facebook, puis sur TikTok, enfin tout ça c'est une répétition avec des nouvelles technologies, mais c'est la même chose. On le voit bien avec quelqu'un comme Orelsan, a fait complètement son début de carrière sur MySpace, où il postait ses chansons, il a commencé à faire des clips lui-même, et il y a cette communauté extrêmement forte, et la notion de communauté dans la musique rap est extrêmement forte, et elle va l'être encore plus, et c'est sur ça encore aujourd'hui que les rappeurs construisent leur succès. C'est vraiment le travail de la communauté, de la rue, vraiment. La rue étant aujourd'hui en ligne, mais c'est la même chose. Et donc ça va vraiment être un levier de la prise de pouvoir indépendante des rappeurs, pendant que d'autres musiciens se saisissent moins de ces outils-là, parce que ils sont moins morts de faim, encore une fois, parce qu'ils peuvent encore passer par les maisons de disques, par les attachés de presse classiques, etc., alors que les rappeurs, en étant privés, se saisissent des outils outils qui sont devant eux et qui sont gratuits.
Et le rap va alors saturer l'espace avec des titres produits rapidement et avec peu de moyens, parce que c'est ça qui est intéressant, Paco Garcia, on peut produire un clip et un son pour vraiment quelques dizaines d'euros.
Oui, en effet. Alors, la production de musique, les home studios existent déjà depuis les années 90 ou le début des années 2000 facilement. Mais ce qui est important, c'est aussi la mise en image et la diffusion de la musique. Donc, grâce aux caméras, grâce et plus tard au téléphone portable, assez rapidement, les artistes indépendants, ou en tout cas qui ont peu d'argent pour produire leur musique et de toute façon n'ont pas vocation à faire passer leur clip à la télévision, car ils n'en ont pas le pouvoir, ils n'ont pas les relations contractuelles pour ça, se mettent à produire des clips, donc autoproduits, autofinancés, pour quelques dizaines ou quelques centaines d'euros, ce qui est très peu, et peuvent les diffuser sur YouTube, sur MySpace. Bon, MySpace, je pense pas que MySpace pouvait faire diffuser de la vidéo, mais YouTube arrive en France en 2008, et très rapidement, on voit des clips de rappeurs autoproduits, et ça va en fait devenir la norme et un des principaux canaux pour consommer de la musique sous forme de vidéos.
Et ainsi, ils gagnent de la visibilité, mais pour autant, est-ce que c'est rémunérateur de mettre des vidéos comme ça sur YouTube ? Est-ce que c'est véritablement rémunérateur pour les artistes ?
Alors, à ce moment-là, pas du tout. À ce moment-là, absolument pas, parce que d'ailleurs, YouTube, à partir de 2008, YouTube commence à faire un travail pour devenir un site qui paye et donc qui est légal. Mais auparavant, YouTube est en fait tout simplement un site pirate. On l'a pas beaucoup présenté comme ça, mais déjà à sa naissance et même après le rachat par Google très rapidement en 2006, si mes souvenirs sont bons, et même jusqu'en 2008, 2010, etc., on est dans un ventre mou, dans une zone grise. Et qui est plutôt illégal, en fin de compte, beaucoup plus que légal. Donc, en fait, il n'y a pas d'argent directement. Mais ce que les rappeurs cherchent à ce moment-là, c'est pas forcément... Alors, ils revendiquent cette quête d'argent, ça fait partie de la mythologie du rap. Mais, en fait, ils ont aussi... ils cherchent à trouver un public, à parler à un public, à faire sortir leur musique, ce qui leur permet, derrière, quand même, de construire un début d'économie sur le live... Pas forcément dans les salles de concert à ce moment-là, des salles de concert un peu labellisées salles de concert. On est beaucoup plus dans un circuit, ce qu'on appelle des showcases, c'est-à-dire des courts moments de concert qui se passent notamment dans les bars à chicha de banlieue, etc., dans les grandes métropoles de France. Il y a un circuit qui commence à se créer à ce moment-là et qui peut rapporter de l'argent et qui entraîne comme ça une sorte de début d'économie, mais la rémunération des écoutes et la rémunération des vues à la fin des années 2000, on n'en est pas encore là.
Paco Garcia.
Et ça permet même de vendre des CD, c'est-à-dire que grâce à YouTube, Mister You ou d'autres artistes comme Alpha 520, etc., des artistes de la fin des années 2000 ou du début des années 2010, vendent des CD, ce qui n'était pas possible pour les artistes qui ont tenter leur chance en 2005, 2006, 2007. Donc là, on voit que même avant le streaming, j'imagine qu'on va y venir, les ventes de rap recommencent à augmenter, en fait. À partir de 2010, on voit que, grâce à Orelsan, la section d'assaut, Mister You, Alpha 520, etc., etc., on a un certain nombre d'artistes qui arrivent à se placer dans le top 200, ce qui n'était vraiment pas possible, ou alors possible vraiment à la marge et par des artistes portés par les grandes maisons de disques comme Diams, comme Booba, comme Rof, des artistes voilà établis depuis la fin des années 90. Voilà, au début des années 2010 ou à la fin des années 2000, on a de nouveaux artistes émergents qui arrivent à revendre des CD, ce qui n'était très peu possible et encore moins pour des artistes indépendants.
Alors après cette période d'indépendance, pour les rappeurs, le streaming audio est inventé au début des années 2010. C'est une véritable révolution et cela signe finalement dans le jeu du rap le grand retour des majors, Sofian Fenzen.
Alors oui, mais petit à petit. C'est-à-dire qu'au début, pas du tout. Au début, elles restent campées sur leur... D'ailleurs, au début, les majors croient pas au streaming parce qu'elles croient toujours à la technologie d'avant. Hein. C'est une industrie conservatrice comme toutes les autres. Elle a encore du mal à se... Elle se concentre encore sur le téléchargement légal, on va dire. Et les rappeurs, eux, sont prêts, en fait. Comme ils ont été prêts à se saisir des réseaux sociaux, MySpace, Facebook, etc., quand Deezer, qui est la première plateforme de streaming légale, on va dire, en Europe, puis Spotify qui arrive très vite, les rappeurs se saisissent très rapidement, en fait, pareil, de ce mode de consommation qui, en plus, rencontre autre chose, c'est le téléphone portable. Le téléphone portable, et notamment l'iPhone d'Apple, pour le nommer, parce que c'est vraiment cet objet-là, comme l'iPod précédemment, qui fait basculer la musique dans une nouvelle époque. L'iPhone va marquer la naissance du smartphone, c'est-à-dire du téléphone connecté partout. Et donc, à partir du moment où vous avez le streaming, c'est-à-dire la musique sans téléchargement, que vous avez des catalogues qui sont disponibles sur ces plateformes et qui sont profonds, et que vous avez un ordinateur dans la main qui est connecté en permanence et que vous pouvez écouter de la musique en permanence en flux infini, on va avoir voilà la naissance d'une nouvelle façon d'écouter la musique. Et ceux qui vont être les plus prêts avant les autres, c'est les rappeurs, parce que ils ont leur propre musique, ils ont leur propre structure pour la produire, ils sont indépendants dans leur production, dans leurs moyens de distribution, notamment avec avec Musicast qui va être acheté par Believ et qui va devenir donc un distributeur numérique également. Ils ont leur communauté grâce aux, aux réseaux sociaux, et en fait très rapidement ils vont envahir les plateformes de streaming et rencontrer une génération d'auditeurs qu'ils avaient déjà commencé à rencontrer avec les ventes de disques de la fin des années 2000, etc. Mais on va avoir une rencontre extrêmement forte entre un outil de diffusion, de distribution, d'écoute de la musique et une musique générationnelle.
Alors pour ces artistes, les sources de revenus vont alors se diversifier. Je vous propose d'écouter le rappeur Ninho qui est l'un des plus écoutés aujourd'hui en France.
Je commence à savourer justement parce que j'arrive à me structurer, t'as capté. Maintenant je rentre dans un truc où t'as vu, je contrôle mes trucs. Ouais, je connais mon merchandising, je connais ça, je connais. J'essaie de me renseigner sur tout ce qui crée ma, mon blaze, tu vois, le Ninho en fait en question. T'as capté toute la structure qu'il y a autour en fait, tout ce que ça génère, tout, tout, je regarde tout. Comme ça au moins j'ai toute la vision. Et maintenant comme j'ai toute la vision et que je me sens, t'as vu, maintenant que je me sens producteur du truc, ça change aussi, ça change la vision de vie, t'as capté.
Donc maintenant tu gères la production,
ouais.
La tournée,
ouais.
Le merchandising,
ouais.
Et quoi d'autre?
Bah tu tout. Fais mon merchandising, ma production Ninho, j'ai beaucoup de choses. Et c'est le début d'une aventure aussi. Mm. C'est-à-dire que la structure, elle va grandir. Et il y a le label aussi qui se développe, tu vois, avec des artistes qui vont arriver et tout, qui ont à travailler leur projet de plus en plus parce que l'on travaille un peu, t'as vu, à la gangsta. Et là, on va se structurer, tu vois, et monter des choses. Pourquoi pas?
Voilà le rappeur Ninho au micro de Mouloud Achour sur Click TV en décembre dernier. Que vous inspirent ces propos, Paco Garcia? Les artistes qui réussissent sont ceux qui ont su devenir entrepreneurs?
Oui, ce qui est intéressant, c'est que les artistes, au début des, enfin, au cours des années 2000, se constituent en entrepreneurs, mais par défaut, en fait. Booba, par exemple, et ses producteurs du 45 Scientifique le disent. Ils cherchaient pour le premier album de Booba, le premier album de Lunatic, qui est le groupe de Booba, le premier et seul album de Lunatic, les producteurs de Booba et Booba, qui étaient associés à la structure de production, cherchaient un contrat d'artiste avec une major, ce qui n'a pas été possible. Donc, ils ont, par défaut, dû constituer une société pour ensuite aller chercher un contrat de distribution avec une maison de disques. Aujourd'hui, la situation d'artiste entrepreneur n'est pas subie, elle est dominée, elle est voulue. Et ce qui est intéressant avec Ninho, c'est que il le dit explicitement, il parle du blaze Ninho, il parle plus vraiment de sa musique comme produit ou comme produit principal, il parle de l'image de Ninho. Donc aujourd'hui, on est dans une image de l'artiste qu'on va vendre parce que, en tout cas, c'est ce que je pense. La valeur symbolique de la musique a baissé. On a pu pendant un moment se la produire gratuitement alors qu'elle était chère à un moment. Maintenant, on peut se la produire si ce n'est gratuitement, si ce n'est gratuitement pour 10 € par mois une infinité de musique. Donc la valeur symbolique, le fait de pouvoir, le consentement à payer pour de la musique a de fait baissé. Par contre, le consentement à payer pour consommer de l'image artistique, de l'image influenceur entre guillemets, de l'image de l'artiste star, lui a potentiellement augmenté. Cette propension à consommer de l'expérience artiste a potentiellement augmenté. Et Ninho, conscient de ça, conscient du blaze Ninho, a choisi d'investir dans le merchandising, d'investir dans le live, de se produire lui-même, etc., etc. Donc c'est une économie à 360 que justement, et peut-être qu'on y viendra, les majors essaient de capter aussi. Les majors ont compris que la musique en elle-même était rémunératrice certes, mais les activités autour de la musique et connexes à l'artiste star étaient potentiellement beaucoup plus rémunératrices.
Mais c'est ça, les fortunes aujourd'hui des rappeurs se font moins sur les rémunérations par justement les grandes plateformes de streaming, par exemple, que par tout ce qu'il y a autour de la musique en tant que telle, Sofian Fanen.
Oui, c'est ce que Ninho dit dans ce son. Je contrôle tout, je maîtrise tout. Les rappeurs ont... Alors, de façon subie à travers les années 2000, mais la génération d'après s'est inspirée vraiment de ses grands frères et presque avec un esprit de, justement, de vengeance, avec une notion vraiment de, en fait, je vais pas aller signer chez une major parce qu'il y a eu des propositions assez délirantes, hein, d'ailleurs, pour certains. Je vais pas aller signer avec une major parce que on a aussi été maltraité. Mon grand frère a été maltraité, les grands frères ont été maltraités. Et donc, il revendique même presque politiquement, en fait, même si c'est pas dit comme ça, mais il revendique politiquement cette indépendance. Et en fait, ils ont compris que confier toute sa vie d'artiste à une maison de disques, parce que c'est ce qui se passait jusque à l'époque du CD, en fait, quand on était un artiste et qu'on voulait avoir un accès assez vaste à la population des auditeurs et des auditrices, il fallait se confier pieds et poings liés à une maison de disques qui allait faire plus ou moins bien le boulot à partir de là. Mais quand vous avez tous les outils dans les mains, vous pouvez conserver votre production, votre maison d'édition qui va défendre les chansons, qui va défendre les chansons, pardon, et petit à petit, comme Nino le dit, le live aussi, c'est-à-dire garder l'intégralité ou une grosse partie de vos revenus du live, aller travailler avec des tourneurs, garder votre merchandising.
Parce que le live, c'est parmi ce qui rapporte le plus aujourd'hui.
Alors oui, alors, le streaming rapporte aussi beaucoup aujourd'hui, ça y est. Hein. Mais évidemment que le live, quand vous remplissez des zéniths, etc., c'est tout de suite 5 000, 6 000 personnes et que vous faites le tour de France des zéniths, c'est évidemment une économie gigantesque. Et donc, en fait, ils vont cumuler ça avec un travail effectivement sur le merchandising, vendre des t-shirts, ils se remettent à vendre des CD aussi, on l'a vu là récemment avec Vald, Orelsan, Section d'Assaut qui revient aussi en vendant un disque physique dans ses concerts. Mais aussi de la musique à l'image, placement de musique dans des publicités, dans des films, dans des séries, travail avec le monde du jeu vidéo également, ça c'est un vaste monde qui s'ouvre aussi, c'est-à-dire qu'on va aller récupérer de l'argent sur la marque que représente le nom de l'artiste et la musique qui est un élément de la vente de cette marque.
Des sources de revenus toujours plus diversifiées. Et puis, il y a aussi de nombreux artistes qui plébiscitent le modèle proposé par la start-up française Believe, qui a racheté Musicast en 2016. Ce que fait Believe, c'est de proposer en quelque sorte des prestations à la carte, Paco Garcia.
Oui, c'est une sorte d'ubérisation du monde de la musique, si je puis dire. Ce qui est intéressant, c'est que, justement, pour préciser, donc voilà, aujourd'hui, les maisons de disques se sont reconfigurées autour principalement du contrat dit de distribution améliorée. C'est-à-dire que l'artiste reste propriétaire de sa musique, reste producteur de sa musique, ou alors un producteur tiers, mais qui n'est pas la maison de disque. Et la maison de disque vient proposer un ensemble de services. Tout d'abord la distribution, de fait, il faut que la musique soit distribuée, mais aussi un ensemble de services à la carte qui peut être une mise en relation avec un attaché de presse, mais aussi une mise en relation avec un tourneur, la fabrication de merchandising, etc., etc. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, les majors du disque, et Believe, qu'on peut aujourd'hui considérer comme une major, ou en tout cas comme une multinationale de la musique, se sont reconfigurées en s'adaptant à ce nouveau modèle de l'artiste-entrepreneur. Aujourd'hui, elles proposent un ensemble de services que l'artiste paye à la carte, pour essayer de satisfaire ses son envie d'entrepreneuriat en 360.
C'est par exemple Ada, pardon de vous couper, qui, oui. De Warner, qui revendique la puissance d'une major et l'agilité d'un indépendant.
Oui, c'est exactement ADA, qui est le service de distribution de Warner, donc qui est d'une major, mais dont le leitmotiv est la puissance d'une major et l'agilité d'un indépendant, et qui est dirigé par le directeur de Dean Records, Alassane Konaté, qui est un des grands acteurs de l'indépendance et de ce creux de la vague du rap en France via la production de Medine, qui est un artiste qui a subi la crise du disque, mais qui a réussi, lui, à monter son économie basée aussi sur le merchandising, sur le live, etc., etc.
Et donc finalement, quand les majors ont vu, par exemple, le succès de Jul ou de PNL avec ce modèle à la carte de Believe, ils ont voulu finalement eux aussi s'adapter à ce modèle, Sofian Fadnelli.
Oui, alors sur Jul et PNL, il y a une histoire d'ailleurs qui raconte bien cette adaptation un peu forcée, en tout cas qui s'est pas faite dans la douceur. C'est-à-dire que en 2017, il y a une affaire Jul et PNL, c'est-à-dire que Jul et PNL, qui sont des rappeurs qui sont chez Believe via Musicast, occupent l'intégralité du classement du top 10 en France des singles. Et il y a une réunion du SNEP, le syndicat des majors, et tout le monde est persuadé que c'est de la triche, qu'ils ont acheté des streams parce que c'est une pratique qui existe également, et que c'est pas possible en fait que ces artistes qui sont chez Believe, ce gros indépendant, soient plus forts que les artistes chez les majors. Et il y a des accusations fortes de triche. Ils vont voir Deezer, ils vont voir Spotify, ils débarquent chez les majors, chez Believe, etc. Et en fait, tout le monde se rend compte à la fin que les chiffres ne sont pas truqués. Et sur cette histoire-là, les majors se rendent compte qu'en fin de compte, elles doivent changer. Et que Believe est en train de leur apprendre à travailler, que Jul et PNL, notamment, sont en train de leur apprendre à travailler. Et à partir de là, on va avoir une reconfiguration, même en interne, des majors. C'est-à-dire qu'on va confier les clés aux gens qui, jusque-là, étaient, pour caricaturer, les gamins en jogging dans un coin qui s'occupaient du rap. Et jusque-là, ils étaient un petit peu négligés. Et tout d'un coup, on leur confie les clés et on va avoir une transformation interne d'Universal, de Warner, de Sony, qui vont, en 3 ans, se mettre en ordre de bataille et re-signer des rappeurs via ces contrats de licence et via toute une nouvelle façon de travailler, parce qu'ils se sont rendus compte à ce moment-là qu'ils étaient en train de perdre le terrain.
Et aujourd'hui, on a d'un côté des maisons de disques qui jouent de plus en plus un rôle de banque pour les artistes, c'est ce que vous nous disiez pour préparer cette émission, Paco Garcia, et dans le même temps, l'indépendance qui est redevenue un argument marketing.
Oui, en effet. Si ce n'est l'indépendance, en tout cas, le fait qu'aujourd'hui l'artiste soit maître son business et qui n'est pas que de la musique aujourd'hui, ou en tout cas qui n'est pas que la valorisation de la musique sur les plateformes de streaming. Ça, c'est une première chose. Et les maisons disques, en effet, se sont réadaptées à ça, ce qui fait que elles jouent le rôle de banque et ce qui fait que ce sont les artistes qui, en fait, eux supportent le risque. À l'époque du contrat d'artiste, c'était la maison disque qui engager des investissements, engager de l'argent pour produire un album. Et si l'album n'était pas rentable, malheur à la maison de disque qui pouvait retomber sur ses pattes, étant donné qu'elle produisait une multitude d'artistes. Aujourd'hui, l'artiste se supporte lui-même, et si échec il y a, c'est lui qui en paye les conséquences. On lui rend son contrat, il a perdu de l'argent, il doit entre guillemets de l'argent à la maison de disque, ce qui n'est pas forcément le cas parce qu'une avance n'est pas remboursable mais recoupable. Mais voilà, c'est lui qui a tout perdu dans l'histoire.
Et récemment, ça s'est produit, c'est-à-dire il y a eu des investissements qui ont donné lieu à des échecs importants.
Oui, alors on en fait peu la publicité et on n'a jamais les comptes ni les contrats, mais on sait que après un premier album annoncé en grande pompe, parce que signature en grande pompe, deuxième album, il n'y a pas eu. Ce qui veut dire que échec il y a eu. Ce qui n'était pas forcément le cas à la grande époque du streaming, si on peut dire qu'on est plus dans l'euphorie, entre 2015 et 2018, on peut pas dire 100%, mais une bonne partie des albums de rap produits et lancés fonctionnaient. Aujourd'hui, on peut considérer que le rap refonctionne normalement par rapport aux autres genres musicaux. Il fonctionne un peu mieux de fait parce que c'est la musique la plus écoutée par les jeunes et qui eux surconsomment la musique sur les plateformes de streaming. Mais le rap le destin du rap va peut-être être de retrouver une place à peu près normale dans l'industrie de la musique dans les 5-10 prochaines années.
Donc on va vers la fin d'un cycle, Sofian Fanen, avec l'idée que le succès phénoménal du rap aura été une exception dans l'histoire de l'industrie musicale.
Ça aurait été le moment, j'ai écrit dans un article que ce moment dont Paco Garcia parlait, 2015-2018, c'est-à-dire c'est vraiment les années de l'émergence grand public du streaming. C'est après la bascule vers les playlists qui sont le cœur de la machine vraiment du streaming. Et effectivement, en fait, il n'y a que du rap dans les classements à ce moment-là, tout simplement parce que c'est avant tout les jeunes qui sont sur cette plateforme à ce moment-là. Aujourd'hui, on a l'ensemble de la population qui est rentrée dans un usage du streaming et qui change la donne. Mais entre 2015-2018, on a surtout les jeunes qui écoutent du rap à ce moment-là parce que c'est leur musique. Et j'ai raconté dans un papier que ça fait écho aux années yéyé, aux années 50, 60, où on avait là aussi une génération qui s'est saisie d'une musique qui en plus avait le mérite d'être une musique qui plaisait pas aux parents, ça c'est toujours mieux quand on est jeune, et en plus de nouveaux outils d'écoute de la musique qui étaient à l'époque le 45 tours, le transistor, qui est aujourd'hui le streaming et le smartphone. Et donc on a eu cette tempête parfaite qui a porté le streaming en termes de chiffres. Aujourd'hui, comme disait Paco, le rap est en train de de se normaliser, mais parce que aussi il a pénétré l'ensemble des couches de la musique et il s'est répandu. Et même son modèle économique et cette façon de fonctionner est devenu la façon de fonctionner de la pop actuelle, de la chanson actuelle, même du rock, etc. Et donc le rap a pénétré en profondeur dans la société et il est là pour rester.
Le rap se normalise, on finira là-dessus. Un grand merci à tous les deux, à Paco Garcia et Sofian Fanen, de nous avoir éclairé sur les enjeux économiques du rap. Paco Garcia, doctorant en sciences de l'information et de la communication à Sorbonne Paris Nord, et Sofian Fanen, journaliste cofondateur du média en ligne lesjours.fr. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Boulevard du stream du MP3 à 10h, La musique libérée, paru aux éditions du Castor Astral. Et tout de suite, on se quitte avec Bébé Conte de la chanteuse martiniquaise Meryl.
Bébé compte, compte, compte les billets sur la table. Bébé compte, compte, compte les billets sur la table. Bébé compte, compte, compte les billets sur la table. Faut payer facture, faut payer essence, faut payer loyer, faut payer la conso. Hey, j'ai acheté la voiture, 13 000 euros, faut payer l'assurance. Bébé compte, acheter le terrain, construire la maison, faut payer les taxes. Bébé compte, Gucci, Burberry, Louis, dans la manche, je fais de la concurrence. Bébé compte, battu pour ton dû, divise en deux, faut donner à l'État. L'argent est dehors, toutes les saisons, j'ai quitté la maison et j'ai raison. Je veux me refaire, j'aime bien me saper, papa a semé, faut partager. Mardi décembre, c'était la fête, 9 mois après, y'a bébé naissant. Petit bout de plastique, au bout de la digue, t'aurais fait faire des économies. Bébé compte, compte, compte les billets sur la table. Bébé compte, compte, compte les billets sur la table. Bébé compte, compte, compte les billets sur la table. Faut payer facture, faut payer essence, faut payer loyer, faut payer la conso. Bébé compte, 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 compte les billets sur la table. Bébé compte, 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 compte les billets sur la table. Bébé compte, 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 compte les billets sur la table. Faut payer facture, faut payer essence, faut payer loyer, faut payer la conso.
Demain, nous nous pencherons sur l'économie de la scène électro avec la sociologue Myrtille Picot et le président de l'association Technopole, Tommy Vautcrane. Mais d'abord, c'est l'heure du pourquoi, du comment, votre chronique présentée cette semaine par la coprésidente de l'Institut Veblen, Mathilde Dupré.
Comment mettre fin à l'irresponsabilité des multinationales ? Du fait de l'évolution organique rapide des activités des firmes internationales, le droit accuse un retard certain sur l'économie. La société mère reçoit ainsi les profits de ses filiales sans être comptable des conséquences environnementales et sociales de leurs activités. L'entreprise multinationale n'existe pas juridiquement en tant que groupe, c'est-à-dire que les filiales et chacune des entreprises qui la composent sont considérées comme autant d'entités séparées dont chacune assume sa propre responsabilité sans engager celle des autres. La catastrophe de Bhopal en Inde, l'épandage de déchets toxiques en Côte d'Ivoire, les déversements d'hydrocarbures de Chevron Texaco en Équateur, ou bien encore l'effondrement du Rana Plaza au Bangladesh, constituent quelques-uns des exemples les plus emblématiques de l'impunité dont jouissent les multinationales. Pendant des années, ce sont des normes non contraignantes qui ont été promues par l'Organisation de coopération et de développement économique, par l'Organisation internationale du travail ou les Nations unies, pour encourager la responsabilité sociétale des entreprises. Cette approche par le droit souple n'a malheureusement pas donné les résultats escomptés. Une étude publiée par la Commission européenne en 2020 souligne ainsi l'échec des mesures volontaires et l'importance d'adopter de nouvelles règles afin de prévenir les impacts systématiques, continus et croissants sur les droits humains et l'environnement qui surviennent dans les chaînes d'approvisionnement mondiales des entreprises. La loi française relative aux devoirs de vigilance, adoptée en 2017, au terme d'un parcours législatif chaotique, constitue pour l'heure un modèle. C'est la première loi au monde créant pour les entreprises des obligations en matière de respect des droits humains, partout où elles opèrent. Au-delà d'une obligation de prévention, elle prévoit un régime de responsabilité civile pour les dommages engendrés par les activités des entreprises, y compris via leurs filiales, leurs fournisseurs ou leurs sous-traitants. Sa portée a bien sûr été amoindrie au cours de l'examen du texte, sous l'effet du lobbying intense pratiqué par les représentants du secteur privé. Selon le professeur de droit Antoine Lioncamp, cette loi constitue néanmoins un texte en vraie rupture avec l'impuissance de l'État face à une puissance des pouvoirs privés qui, dans une large mesure, le dépasse. Et le précédent français a incité d'autres pays européens à travailler à leur tour sur des législations nationales contraignantes, notamment en Allemagne, aux Pays-Bas ou en Norvège. La mise en œuvre de la loi française reste toutefois un parcours semé d'embûches. Selon Sherpa et le CCF des Terres Solidaires, environ 17% des entreprises soumises à cette nouvelle obligation légale n'ont toujours pas publié de plan de vigilance. Et si à ce jour, on recense 5 assignations en justice contre Total, Suez, EDF et Casino, il a fallu que le législateur intervienne à nouveau en 2021 pour clarifier le tribunal compétent à la suite des premiers démêlés judiciaires. Pour aller plus loin, c'est d'un texte européen dont nous avons désormais besoin. C'est pourquoi la publication par la Commission européenne d'un projet de législation en février 2022 marque une étape historique. Le report à 2 reprises de la présentation de ce texte laisse néanmoins deviner que les discussions seront difficiles. Les organisations patronales européennes ont déjà commencé à jeter toutes leurs forces dans la bataille. Bâti sur le modèle français de la loi devoir de vigilance, le texte, qui présente déjà plusieurs lacunes, est désormais entre les mains du Parlement européen et des États membres. C'est à eux de s'assurer que les dispositions finales permettront de mettre fin à l'irresponsabilité des maisons mères et donneuses d'ordre et de faciliter l'accès à la justice pour les victimes. Alors que des négociations ont aussi démarré en 2014 au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, l'Union européenne a pour l'instant brillé par son silence. Espérons que l'adoption d'un texte européen puisse rebattre les cartes pour qu'elle s'engage enfin résolument en faveur d'un instrument international juridiquement contraignant.
Merci beaucoup Mathilde Dupré. On se retrouve demain pour un nouvel épisode d'Entendez-vous l'écho sur la scène électro. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France. On vous attend également sur Twitter, sur le compte d'Entendez-vous l'écho.